Vous écoutez
RMC.
La bataille fait rage dans le dernier tour entre Lando Norris, le vice-champion du monde, avec sa McLaren, l'homme qui avait signé la pole position, et Max Verstappen. Et Norris va tenir, oui, Norris va franchir maintenant le drapeau à damier. Il remporte la 5e victoire de sa carrière de pilote de Formule 1, la première de la saison 2025. Verstappen termine à 8 dixièmes exactement. Le 3e, eh bien, ce sera George Russell, le britannique, avec la Mercedes. 4e, Albon. 5e, Antonelli, le meilleur des rookies, avec l'autre Mercedes. Stroll est 6e, Hülkenberg 7e. Du côté des Ferrari, Leclerc 8e, Piastri 9e et Hamilton 10e. Malheureusement, Pierre Gasly n'est pas parvenu à conserver le point de la 10e position jusqu'au bout. Un Grand Prix décidément très mouvementé.
Oh oui, très mouvementé. Le premier Grand Prix de cette nouvelle saison de Formule 1 était très attendu, vous le savez, et il a viré au chaos. La pluie s'est invitée à Melbourne et a largement perturbé la course. Dans ces conditions, vous l'avez entendu, c'est Lando Norris qui est même passé tout près de la catastrophe, mais qui s'est imposé devant Max Verstappen. Le match est déjà lancé entre les deux pilotes. On va parler de Ferrari, des Français, et puis de ce malheureux Isaac Hadjar, le rookie tricolore qui s'est crashé dans le tour de formation. Jean-Luc Roy et de nouveau avec nous sur RMC. Bonjour Jean-Luc.
Oui, salut JC, salut toute la bande.
Salut Jean-Luc.
On attendait avec impatience ce premier Grand Prix de la saison. Est-ce qu'on a déjà des enseignements clairs, mon cher Jean-Luc ?
Ah ben oui, il y en a au moins un. Alors eux, ils voulaient pas qu'on le dise, mais c'est que les papayas, les oranges sont les plus forts. On l'avait bien compris déjà après les 3 jours d'essai qui s'étaient déroulés à Bahreïn au mois de février, où dans toutes les conditions, que ce soit avec peu de carburant sur un tour, et puis quand ils faisaient des simulations de course, eh bien à chaque fois, ils étaient les plus rapides. On a vu qu'ils avaient signé les meilleurs temps, puisque Lando Norris avait la pole avec Oscar Piastri à ses côtés. Et puis dès que la piste a été un peu libérée, ils avaient un rythme qui était nettement plus rapide que celui que Verstappen pouvait imposer. Verstappen avait pris un excellent départ. Alors, si je vous raconte toutes les péripéties de ce qui s'est produit pendant ce Grand Prix...
Non, on est là jusqu'à 16h.
C'est ce que j'allais dire. Donc, je la fais brève. Bon, Verstappen était le seul capable véritablement sur la piste de s'y opposer. Et puis, après, il y avait des histoires de stratégie. Il y a eu, tu l'as rappelé tout à l'heure, effectivement, une erreur d'Oscar Piastri. Finalement, il s'en sort bien parce qu'il arrive à rentrer dans les points et finalement, il termine 9e. Quant à Norris, il a tenu bien la barre et il démontre que là, cette année, évidemment, entre lui et Verstappen, ça va être une bagarre à couteau tiré. Derrière, un cran en dessous, il y avait Russell. Et puis, je crois que Ferrari mérite un chapitre à part. On y reviendra peut-être un peu plus tard.
Bien sûr, on va en parler dans quelques instants de Ferrari. Mais là, de voir, pour vous les GG, peut-être que vous avez une question pour Jean-Luc Roy, mais de voir cette bataille lancée entre Lando Norris et Max Verstappen, est-ce que ça vous excite ou vous attendiez peut-être autre chose de ce Grand Prix et peut-être que les Ferrari se mènent à la lutte?
Évidemment, on est ravis. C'était les mecs qui étaient en haut en fin de saison dernière. On sait qu'évidemment Ferrari va tout faire pour se mêler à la lutte. Bon, tu parlais d'enseignement. Là, moi, je parle sous le contrôle du King, évidemment. Un Grand Prix sous la pluie, ça reste quand même toujours un petit peu particulier. C'est Toto Wolff, le patron de Mercedes, qui l'a rappelé. L'important, c'est de terminer. C'est d'abord de terminer. Et tous les mecs qui ont abandonné peuvent en témoigner. On va reparler de Ferrari donc tout à l'heure, mais je sais pas, moi je trouve ça sympa de mettre l'accent d'abord sur le pilotage pur et puis un petit peu la stratégie parce que le temps a pas arrêté de changer. Donc en fin de course, ça s'est joué quand même à un tour pour certaines écuries. Tu t'arrêtes un tour trop tard, et ben ça fait plusieurs places de différence sur la grille. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt que ça se joue uniquement sur les performances mécaniques qu'on avait déjà entrevues en préparation.
C'est vrai qu'aussi pour les néophytes, mais même voir ce genre de Grand Prix, en plus pour premier Grand Prix de la saison, on n'est pas forcément habitué avec tout qui peut se passer dans les derniers tours de course. Ça, c'est plutôt prometteur pour la suite de la saison, même s'il n'y aura pas tout le temps de la pluie. Cédric Emmons.
Oui, en tous les cas, ça, les conditions météo nivellent, on va dire, le niveau. Je ne sais pas, à un moment donné, je regardais quand même, parce que j'avais vu les sujets, c'est Charles Leclerc qui, soit en essai ou en qualification, a été premier sur
séance d'essai libre, oui.
La deuxième séance d'essai libre, absolument.
Exactement. Oui. On sait que les McLaren l'année dernière ont fini premier. Ils ont un temps d'avance sur la mécanique, sur la voiture, sur la maîtrise de leur mécanique. Ça veut dire quoi? Ils ont pris les commandes et ils vont dérouler. Charles Leclerc pour revenir. C'est quoi? C'est déjà joué d'entrée. C'est sinon ça va être. En fait, ça
oui,
va être chaud,
que McLaren
quoi.
Est trop fort. Que les... Pardon, oui, vas-y, Pascal.
Ouais, pardon. J'ai l'impression que les positions ont pas changé par rapport à l'année dernière. Mais c'est bien normal parce que les voitures, elles sont connues. Il n'y a pas eu beaucoup de modifications. Je crois qu'il y a beaucoup de modifications qui sont prévues pour l'année prochaine. Tu m'arrêtes, Jean-Luc, si je me trompe. Mais j'ai l'impression qu'on a une voiture qui domine. Et puis, on a le meilleur pilote du monde qui est Verstappen qui va s'accrocher. Et on va avoir ce duel entre McLaren, Verstappen, arbitré peut-être. Par les Ferrari. Voilà, j'ai l'impression qu'on va revoir ce qu'on a vu l'année dernière.
Ce qui n'est pas forcément tout le temps bon signe, hein, alors qu'on attend beaucoup aussi de Ferrari. Avant de parler de Ferrari, est-ce que tu abondes dans ce sens? Est-ce qu'on va se retrouver avec ce duel inévitable, Jean-Luc?
Bah écoute, ça prend cette tournure-là, oui. Alors, juste une petite modif, c'est le cas de le dire. Les ingénieurs, eux, te disent que la Ferrari est nouvelle à 99%. Alors, malgré tout, tu as raison sur le fond, c'est-à-dire que le grand changement réglementaire, c'est bien pour 2026, mais on s'est remis en cause, et même chez McLaren, ce qui est paradoxal, parce qu'effectivement, la monoplace dominait très largement toute la deuxième partie de la saison, c'est peu de le dire, d'ailleurs à un point tel que Verstappen n'a été champion que parce qu'il avait remporté des courses dans la première moitié de la saison, et enfin il en a remporté deux quand même sur la fin, mais je veux dire heureusement qu'il avait de l'avance. Eh bien, on a remis en cause, et ça c'est courageux de la part des ingénieurs de McLaren, on a remis en cause la monoplace et on a réussi à grappiller, parce que en fait tu sais le problème de la Formule 1, c'est que rien n'est dans l'absolu, c'est toujours par rapport aux autres. Donc en clair, tout le monde a progressé et du coup McLaren a réussi à progresser un petit peu plus que les autres.
Bon, vous voulez tous parler de Ferrari et on le comprend, hein, avec tout ce tapage et ce mariage du siècle entre Lewis Hamilton et Ferrari. Sachez donc que Charles Leclerc a terminé 8e, Lewis Hamilton dans les points tout de même, mais 10e, alors qu'à un moment donné, dans ce chaos, eh bien Lewis Hamilton s'est retrouvé en tête un peu par hasard de ce Grand Prix. Et puis il y a une stratégie de Ferrari, tu vas nous dire ce que tu en penses, évidemment, Jean-Luc Roy. Mais juste avant, écoutez Frédéric Vasseur, le patron de l'écurie, et puis Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Après ce premier Grand Prix, c'est au micro du diffuseur Canal+.
Aujourd'hui, la stratégie n'était pas facile, mais on a pris de mauvais choix à la fin. Faut pas se voiler la face. Voilà, on a perdu. Bon, maintenant, il reste 24 courses ou 23 courses et il faut regarder devant.
Pour moi, ça a été une course d'apprentissage. C'était un test. Et un test très difficile. Mais bon, je vais le traverser. Je suis heureux que ce soit fini. Et maintenant, je vais pouvoir effectuer des changements à la voiture.
Il faut que je sois meilleur que les autres et je ne l'ai pas été aujourd'hui, clairement. Donc, ça, c'est la première chose à pointer du doigt. Après, ensuite, toujours difficile d'avoir la stratégie parfaite dans ces conditions-là et d'anticiper exactement quand est-ce que le nuage où il y a vraiment beaucoup de pluie arrive sur la piste. Donc, il ne faut pas trop qu'on s'en veuille sur ça. Mais par contre, il faut que je m'en veuille pour l'erreur. Ça nous a coûté bien 4 places. Donc, ça fait mal.
Ça fait mal. Rappelle-nous et explique à tous les auditeurs qui nous écoutent, s'ils n'ont pas vu ce Grand Prix, la stratégie ratée de Ferrari. C'est pas une première, hein, dans l'histoire de Ferrari, même dans l'histoire récente de Ferrari. Lewis Hamilton va devoir s'habituer, hein, au problème de stratégie de Ferrari, Jean-Luc.
Alors pourtant on avait bien progressé, ça remonte à quelques années où il y avait eu des erreurs coupables effectivement et des erreurs criantes. Là ça n'était plus trop le cas les dernières saisons. Alors bon, comme l'a dit avec beaucoup de franchise Fred Vasseur, parce que vraiment lui aussi n'a jamais la langue de bois, c'est tout simplement quand la pluie s'est remise à tomber, c'est-à-dire tous les pilotes ou presque se sont arrêtés au 45e tour pour remonter des pneumatiques intermédiaires, des pneumatiques prévues pour une piste humide, pas les full wet mais pour une piste humide. Et du côté de chez Ferrari, eh bien on a laissé les pilotes en piste, ça veut dire qu'on a attendu deux tours de plus, on s'est arrêté au 48e tour pour être précis, pour Leclerc et pour Hamilton, et donc c'est dans cet intervalle qu'ils étaient en tête, bien sûr, puisque tous les autres sont repassés par la voie des stands, mais on savait bien que ça n'allait pas durer puisque la piste était en train de se mouiller. Alors Hamilton a mis une petite critique, d'ailleurs il en a mis plusieurs pendant la course en disant à son ingénieur, mais arrête de me parler, parce qu'il lui disait beaucoup beaucoup de choses, et à l'inverse il lui a reproché de ne pas l'avoir averti quand la piste s'est s'est mouillé dans une partie et pas dans une autre. Donc il a été surpris de découvrir cette piste très humide avec des pneumatiques prévues pour le sec. Donc évidemment, c'était extrêmement problématique. Et comme on s'est arrêté deux tours trop tard, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé très loin. Alors après, Charles a même commis une erreur, donc il est parti en tête à queue à un moment. C'est là qu'il parle de ses 3-4 places de perdu. Mais je dirais que l'erreur, il l'avait reconnue aussi, c'était même en qualif. Parce que, comme on rappelait tout à l'heure qu'il avait été le plus rapide, il aurait dû partir beaucoup mieux sur la grille qu'il n'était. Il était seulement 7e sur la grille et Charles, il aurait dû partir sur la 2e ligne. Il aurait dû partir à la place de Russell, 4e. Et là, ça change tout. Donc, il y a eu, on va dire, pas mal d'erreurs commises. Maintenant, ils amènent quand même les deux monoplaces à l'arrivée. Et puis, on espère, parce qu'on adore tous Ferrari, qu'ils vont se remettre dans le coup dès le Grand Prix de Chine. C'est dans quelques jours, là.
C'est ce que j'allais dire, Jean-Luc. Ils sont dans les points. Bon, même si Hamilton, évidemment, il n'était pas satisfait.
Enfin, on va pas se satisfaire de 8e et 10e.
Non, mais d'accord,
Ferrari,
ce que je veux dire, c'est qu'il y a un effet de loupe. Il y a un effet de loupe, évidemment, comme chaque saison sur les performances de Ferrari, a fortiori avec l'arrivée de Hamilton. Bon, Frédéric Vasseur, au micro du diffuseur, il a sorti le fouet clouté, quoi, pour se punir lui-même. Il a quand même dit, on a été minable, machin, l'erreur de stratégie. C'est quand même pas comparable, tu sais, au double arrêt, quand Leclerc était déjà arrêté, ou Sainz s'était déjà arrêté, qu'ils ont fait rentrer Leclerc. Je veux dire, là, il t'explique clairement que.
Oui, déjà, c'est un pari qui a
décision tout de suite et c'est compliqué.
La pluie, le nuage, en fait, la pluie, elle tombait pas au même endroit, enfin pas partout avec la même intensité au même moment. Et ils font le pari de rester en slick. Alors il reste deux tours de trop en slick. Mais Jean-Luc, je parle sous ton contrôle. Ça, ils sont passés pas loin d'un coup de génie parce que s'ils restent en slick et que l'orage s'arrête, c'est eux qui remportent la bourriche quoi. Et ils font 1-2.
C'est exactement ça. C'est exactement ça.
Donc je trouve qu'on est un peu dur de, tu vois, je trouve avec ce qu'on considère comme une erreur.
Lui a été le premier.
Je pense qu'il avait pas trop envie de se faire engueuler par Hamilton, non, peut-être.
Est-ce que c'est fou d'entendre Lewis Hamilton dire non mais pour moi c'était une première course de rodage, ce qui peut s'entendre, mais quand on est septuple champion,
on dirait que c'est un rookie.
On dirait que c'est un rookie.
Il est très humble, il est très humble par rapport à l'histoire de Ferrari. Et puis surtout, effectivement, il a dit qu'il avait dû modifier son pilotage pour exploiter au mieux le châssis, la Ferrari. Il faut savoir que le moteur aussi, il a toujours roulé avec des moteurs Mercedes depuis qu'il est en Formule 1. Toujours, depuis 2007. C'est la première fois qu'il a un moteur avec des caractéristiques quand même un petit peu différentes. Et puis surtout, il y a tellement de réglages possibles sur une Formule 1. Quand il demande à son ingénieur de faire quelque chose, il ne sait pas encore exactement ce que ça va produire sur la voiture.
Non mais ça, voilà, il y a une période d'adaptation, personne ne dira le contraire, mais de l'entendre en disant, j'ai l'impression qu'il dit ça pour pas parler de la stratégie de Ferrari, c'est-à-dire qu'il dit non mais c'était mon premier Grand Prix pour pas essayer de mettre une mine tout de suite. Oui, Philippe.
Moi j'ai des questions à poser à Jean-Luc sur les Français. Ça n'a pas été une super journée pour les Français. Et puis pour Isaac Hadjar, j'ai l'impression que ce n'est pas quand même la meilleure façon de rentrer dans le monde de la Formule 1.
Alors avant que tu répondes justement, Jean-Luc, je rappelle que Pierre Gasly a échoué aux portes des points 11e. Isaac Hadjar, on attend beaucoup de ce jeune tricolore, mais bon, ce n'est pas Lewis Hamilton. Là, pour le coup, c'est un vrai rookie. Je le disais, il s'est crashé lors du tour de formation en essayant de faire chauffer ses pneus et il est parti dans le décor. Écoutez-le au micro de Canal+.
Je suis juste gêné et désolé pour l'équipe. Une erreur, juste. J'en reviens pas, quoi.
C'est horrible pour lui, Jean-Luc.
Là, honnêtement, ça pouvait pas être plus terrible que ça, parce que il avait mené jusque-là un bon week-end, vraiment solide. Il était qualifié pas mal du tout, il était 11e, donc aux portes de la Q3, il y avait des points à aller chercher. Et puis, malheureusement, il fait la grosse bêtise.
C'est l'erreur de cadet, c'est ça.
Ouais, on a presque l'impression dit une erreur de. Il veut pas dire débutant, mais on sent que pour lui, c'est la boulette.
Mais c'est une erreur de début. Enfin, il débute en Formule 1.
Le pauvre, il pleurait après.
Il veut prendre aussi ses responsabilités.
Cette image très forte, Jean-Luc, avec le papa de Lewis Hamilton qui est venu le réconforter dans les stands après sa sortie.
On voyait qu'il pleurait, il était agité de sanglots, il n'enlevait pas son casque. Il est cramoisi, là, vraiment. Et Laurent Méquies, qui est le patron français de cette équipe RB, a dit on va l'entourer, il faut rebondir là-dessus. Et évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Quand on fait une erreur, déjà, il l'admet, c'est déjà une bonne chose. Il y en a plein d'autres qui ne les admettent pas forcément. Et puis ensuite, effectivement, ça va être oublié dès qu'il va aborder la Chine et il faut
il
capitaliser
sur il est honteux.
Est-ce que ça peut peser sur
sa confiance
sur l'évolution qu'on lui souhaite la plus belle possible, mais est-ce que ça peut peser sur son prochain départ tour de chauffe
en deux mots, Jean-Luc?
vous avez tous été des champions et vous savez quand on commet une erreur comme ça, puis alors elle était spectaculaire, hein, parce que du coup le départ a été retardé de plus de 15 minutes uniquement à cause de lui.
Les projecteurs sont sur lui, quoi.
Et ouais, là c'est clair que oui, c'est facile de dire non, on repart à zéro pour le prochain Grand Prix. Non, je pense que en plus vous connaissez la politique de Red Bull comme moi, hein, le docteur Helmut Marko qui est pas un tendre, faudra pas qu'il la refasse très souvent celle-là à mon avis, si vous voyez ce que je veux dire.
Il donne des ailes, hein, mais il donne aussi des coups de fouet. Hein,
Il s'est mis une pression énorme.
Merci beaucoup, Jean-Luc, d'avoir été avec nous pour nous débriefer ce premier Grand Prix de la saison.
On repart la semaine prochaine après la Chine.
Mais évidemment, et puis tu seras tout au long de la journée, notamment dans Bartoli Time ce soir à partir de 19h30, dans nos différentes émissions pour revenir sur ce premier Grand Prix de la saison. Merci beaucoup, Jean-Luc, et donc la Chine le week-end prochain, évidemment, que l'on attend avec impatience.